tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure d'Info Club Sandwich, votre émission locale et associative. Vous êtes sur le 87.7 FM, sur le DAB+, ou sur radiocampusamiens.fr. Ce mercredi 10 décembre 2025, je suis accompagnée de Colline à l'interview et de Léo, qui nous a préparé une chronique pour la fin d'émission. Côté musique, on écoutera Black Flag de Duchess Says et All At Once de Trust. D'abord, Colline, c'est à toi.
Oui, alors aujourd'hui, on voulait vous proposer de revenir sur une interview qu'on a réalisée lors du direct de la création, du Forum de la création audiovisuelle. On a interviewé Laetitia Lefebvre, qui est une doubleuse, notamment de l'actrice Emily Blunt, Michelle Rodriguez dans Fast and Furious. Donc elle a pas fait que ça, elle a fait plein de choses. Et je vous propose de découvrir ou de redécouvrir aussi son interview, parce que j'avoue qu'avec l'équipe, avec Gaël, Adam et Antoine, on a adoré l'avoir en interview. C'était vraiment un super moment. Et donc, on a envie de vous repartager ça aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée autour de la table. Laetitia Lefebvre, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Alors, tu es comédienne doubleuse.
Absolument.
Et tu es invitée donc, au Forum de la création audiovisuelle.
Oui, voilà. Très honorée.
Et tu participes donc à un atelier activité donc, de doublage.
Voilà, voilà, doublage grand public. Et puis un petit peu plus tard, il y a une petite interview et également une démonstration que je ferai sur des films que j'ai déjà doublés en fait.
Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédienne doubleuse?
Alors, j'ai commencé très tôt à faire beaucoup de blagues. Quand j'étais petite, je prenais mon téléphone filaire et je transformais ma voix et je faisais des blagues. C'est venu très vite, cette envie de faire du doublage et d'être comédienne. Je pense qu'à 10 ans, mon sort était scellé et j'ai jamais vraiment changé d'idée. Donc, j'ai poursuivi toujours dans cette voie-là. C'est le cas de le dire.
Et alors, comment est-ce qu'on devient comédienne doubleuse? Parce que...
Alors, on devient comédien. D'abord, la base de ce métier, vraiment, il faut séparer les choses. Il faut partir d'une base de comédien. C'est-à-dire que c'est un vrai métier qu'on peut apprendre. Voilà, ça prend du temps, c'est long. Il faut étudier des textes modernes, classiques, savoir techniquement ce que c'est qu'une rupture, savoir projeter sa voix, savoir avoir une diction, etc. Et puis ensuite, on peut... prétendre à s'essayer à la technique du doublage. Mais dans technique du doublage, il y a technique. Et étonnamment, il y a des comédiens qui n'y arrivent pas, même s'ils sont d'excellents comédiens, parce que tu es dans un espèce de carcan technique un peu compliqué. Et on n'est pas tous armés, en fait, pour faire cet exercice-là. Donc, de mon côté, je me suis formée, on va dire, sur le tas. Aujourd'hui, il y a des écoles de doublage. Moi, j'avais pas ça à mon époque. Et je suis arrivée dans ce métier un peu catapultée parce que je joue au théâtre avec un ami à moi qui s'appelle Philippe Bozo et qui m'a dit « Viens avec moi sur un plateau de doublage demain ». Il se trouve que le directeur artistique m'a fait faire un bout d'essai que j'ai transformé, hein, un essai transformé, ça se dit ça, et que 15 jours plus tard, un truc comme ça, j'avais un premier rôle dans un film. Donc c'était extraordinaire, j'ai eu beaucoup de chance.
Alors ta voix, on la connaît, enfin, je veux dire, il y a énormément de choses que tu as doublées, de personnes que tu as doublées.
Ouais.
Quel a été vraiment ton moment, la personne que tu as doublée qui t'a le plus marqué peut-être, le rôle qui t'a le plus marqué?
Oh, je pense que les films avec Emily Blunt sont quand même assez incroyables. Enfin, voilà, doubler Oppenheimer ou The Edge of Tomorrow, c'est quand même des chances incroyables. C'est une comédienne extraordinaire. Après, j'en ai une deuxième que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Karen Gillan, que je suis depuis un paquet d'années et qui fait des films aussi magnifiques. On peut citer Les Gardiens de la Galaxie, Jumanji, L'Appel de la Forêt, enfin, j'en ai tellement que je ne vais même pas me rappeler. voilà.
Vous avez une question, vous, les garçons?
Il y en a plein d'autres, bien sûr.
Il y en a plein d'autres.
Moi, j'aurais voulu rebondir sur un sujet qu'on a évoqué un petit peu plus tôt pendant ce direct, puisqu'on a parlé très brièvement de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'aurais quand même voulu aborder, parce que le doublage, c'est un secteur qui vraiment essentiel pour permettre de diffuser le cinéma très largement. Mmh. Et certaines personnes ont peur un petit peu que ce secteur et les métiers qui y sont rattachés soient mis en danger à cause du doublage. On commence, à cause du doublage, à cause de l'intelligence artificielle, qu'on commence à voir utiliser de manière un petit peu inquiétante. J'ai pu voir des bandes annonces doublées avec de l'IA, des séries animées entièrement doublées avec de l'IA aussi. J'ai pu voir ça récemment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète
Alors oui, tout à fait. C'est une ombre qui plane au-dessus de nos têtes, pas seulement dans mon corps de métier, mais dans celui d'énormément de monde. Mais personne ne se rend compte de l'ampleur du danger. On est effectivement en première ligne parce que c'est plus ou moins, hein, on va dire plus ou moins au point actuellement. Mais nous, on est arc-boutés, on est avec une pétition que je vous invite d'ailleurs à signer, qui s'appelle « Touche pas ma VF ». Je vous invite à cliquer, signer, nous aider et rallier les rangs, parce qu'en fait, on se bat pour ne pas se laisser manger la laine sur le dos. C'est-à-dire qu'une IA, comment elle fonctionne, c'est du pillage, en fait, c'est du vol. Elle vole nos voix et elle mixe tout ça, elle te ressort, elle te recrache un truc qui ressemble effectivement à une voix humaine, mais qui de mieux pour faire des émotions qu'un être humain? Et pourquoi laisser la machine nous suppléer? Voilà, c'est aberrant ce qu'il est en train de se passer. Ce qui est aberrant aussi, c'est qu'on ne se sent absolument pas soutenu, en fait, au niveau de la culture, si tu veux. On a vraiment l'impression d'être en danger. Je parle des comédiens, effectivement, de doublage, mais c'est également la musique. Enfin, y a énormément de domaines de la création qui sont en danger. Et l'IA, c'est caca.
Tu as déjà été confronté, toi, par exemple, on t'a dit « Ah bah non, là, on préfère avoir de l'intelligence artificielle plutôt que ta voix, par exemple. »
Non, on ne me l'a pas fait, non. De temps en temps, il faut vraiment lire son contrat et les petites lignes, parce qu'en fait, notamment sur certains jeux vidéo, on a eu l'occasion de refuser de travailler, hélas, parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça, mais pour dire non, on n'accepte pas qu'une fois avoir travaillé, vous récupériez nos fichiers et que vous les donniez à manger à la bête. Donc je préfère ne pas travailler, ne pas avoir de salaire, que d'alimenter ce monstre. Donc ça, c'est quand même, c'est fort quand tous les comédiens disent non, c'est magnifique, il y a une solidarité qui est belle. Et c'est difficile parfois parce qu'on a aussi des enfants à nourrir, des bouches à nourrir, donc
faut manger.
Voilà,
hein,
c'est pour ça qu'il faut nous soutenir aussi et que la presse, les médias et le public soient derrière nous, c'est primaire. Enfin, primaire, je veux dire, c'est hyper important, quoi.
Et alors, t'avais une question, Gaël.
Ouais, moi, c'était plus une question qui concernait le métier en lui-même. Je vois notamment dans votre filmo, il y a énormément de rôles, du coup, vous avez dit de Karen Gillan, du coup, qui a fait beaucoup de Marvel, du coup, par exemple. Michel Rodriguez aussi sur les Fast and Furious, par exemple, ou Emily Blunt, même certains blockbusters. Et du coup, ce sont des blockbusters, des licences à très gros films qui sortent à une cadence assez régulière, par exemple, notamment pour les Marvel ou les Fast and Furious. Ça représente quoi par rapport au temps de travail que vous avez pour travailler sur la matière, en fait, en même sur le doublage, est-ce que vous avez quand même du temps pour étudier par exemple la VO du film, la version originale, et pour ensuite faire tout un travail de comédien dessus?
Alors, comment ça se passe? On a déjà plusieurs productions différentes. Tu as des productions dans lesquelles ton image, tu la verras pas en fait finale. Tu verras juste une partie de l'image. Pourquoi? Parce que c'est protégé. Il y a eu tellement de pillages de films qu'aujourd'hui ils sont très très frileux. On signe des clauses de confidentialité de l'espace, donc il est parfois de coutume de visualiser le film à l'avance que tu vas doubler, mais c'est pas systématique. Le directeur artistique, son travail, c'est de nous resituer notre scène dans la frise chronologique du film, on va dire, de situer vraiment l'action, etc., de nous guider un peu dans le noir. Parce qu'on ne pourra pas tout voir, on ne pourra pas étudier le scénario. Mais lui, il va nous guider, il va nous dire, voilà, tu vois, là, on en est là, elle vient d'être trahie, c'est le moment où elle craque complètement, et la fin de la scène, pourquoi est-ce qu'elle jette cette bouteille par terre, c'est parce qu'en fait, et voilà, il t'explique, si tu veux, les tenants et les aboutissants, les choses que toi, tu ne peux pas savoir, parce que tu n'as pas accès à tout le film. Maintenant, sur les temps de travail, je ne peux pas généraliser, parce que ça dépend d'un film à l'autre. Mais en général, quand t'es sur des gros blockbusters, t'as le temps. Tu fais un peu de la dentelle. Tu fais ça bien. Tu lèches vraiment les scènes. T'as le temps de les refaire impeccablement jusqu'à ce que ce soit nickel, quoi.
D'accord. Parce que c'est quand même une économie de travail, du coup, quand même, qui peut être parfois différente de certains autres films. Par
exactement.
Exemple, vous parliez d'Oppenheimer tout à l'heure. Par exemple, peut-être que sur Oppenheimer, on est sur un rôle de composition.
Oui, ça prend du temps d'installer les scènes. Travail, tout voilà. À fait. Ouais, ouais.
Peut-être que vous intéressez aussi avec d'autres comédiens de doublage dans la pièce.
Oui, tout
aussi,
à fait. Ouais. Ça peut arriver d'être seul.
Aussi, oui.
Aussi, on peut jouer certaines scènes seules. Et puis d'autres où on est en binôme, ça arrive, ouais.
Est-ce que c'est très différent de quand tu doubles, par exemple, dans un film ou une série ou dans un jeu vidéo ?
Oui, c'est différent. Le jeu vidéo, déjà, on ne fait pas de jeu vidéo à plusieurs, on est seul au micro. Et puis, alors, on a de plus en plus d'images, on a de plus en plus de ce qu'on appelle des cinématiques en jeu vidéo, mais ce n'est pas non plus systématique. Pendant des années, on a eu des textes avec, si tu veux, des formes d'ondes. Donc, j'imagine qu'à la radio, vous savez ce que c'est qu'une forme d'onde, hein, bien sûr. Donc c'est la forme de la voix, voilà. Et il fallait se caler sur des formes d'ondes. Donc ça aussi c'est très technique. Et tu peux être le meilleur comédien du monde, tu peux avoir des difficultés à faire rentrer ton texte qui fait cette taille-là dans une forme d'onde comme ça, te faire juste une micro césure ici pour faire une respiration, pousser ton texte avec un volume beaucoup plus large et rentrer dans un volume microscopique. Voilà, ça c'est une contrainte qui n'a rien à voir techniquement avec les contraintes qu'on a sur le doublage, où là on est sur l'image, on est vraiment sur le produit entre guillemets fini. Je te parle pas des cas où j'ai un petit rond noir, je te parle pas de ça, hein. Je parle d'un film sur lequel j'ai accès aux images. Si j'ai accès aux images, je me cale dessus en fait. Je suis dans les yeux du personnage, dans ses expressions. Est-ce que mon personnage met tout son corps ? Est-ce qu'il serre les dents ? Est-ce qu'il claque des dents ? Est-ce qu'il a froid ? Il y a tout un tas de choses comme ça que tu vois et que tu vas suivre, en fait. Tu sais, t'es un peu sur le qui-vive, toi. Et toi, tu te cales, en fait. C'est comme si tu rentrais dans la peau de ce petit personnage et tu le... Tu t'imprègnes de ce que tu vois et t'essayes, toi, avec ce que tu es, de rentrer vraiment pile-poil dans ses pas, quoi.
Ce qui fait que, du coup, quand vous travaillez sur du live-action, vous devez vraiment vous caler sur l'acteur ou l'actrice à l'écran. Mais par exemple, dans le cas de l'animation, est-ce qu'il y a, du coup, matière à plus composer, du coup, vu que c'est un personnage animé et que vous pouvez peut-être...
Il y a peut-être un petit peu plus de ça, oui.
Oui,
il y a
voilà,
peut-être plus coup, de liberté, oui, bien sûr. Oui. Après... On a des animés avec des voix de composition.
Oui.
Des voix complètement folles, enfin des trucs comme ça, tu vois. Ou parfois des animés, c'est devenu un peu plus la mode ces derniers temps de ne pas avoir des voix un peu de cartoon, mais justement d'avoir des voix simples. C'est vrai, hein, ces derniers temps, c'était un peu comme ça. Et là, bah oui, t'as un petit peu moins de place pour la folie que...
Si, en train de faire un petit personnage qui parle comme ça, quoi.
Donc, voilà. Il y a un côté plus créatif dans le mode cartoon. Enfin, moi j'aime bien, quoi.
Ouais, justement, là, c'était vraiment... Il y a un truc que tu voudrais faire, toi, que tu n'as pas encore testé dans le doublage.
Non, je crois que j'ai été gâtée, on ne va pas se mentir. Hein. J'ai fait des hystériques, j'ai mon personnage de Garcia dans Esprit criminel qui est complètement farfelu, touchante, qui parle à mille à l'heure, qui fait des ruptures, et voilà... dans les bad guys, j'ai une espèce de grosse bonne femme comme ça qui parle, voilà, c'est, moi ça m'éclate. J'ai fait des flics, FBI, les mains en l'air, etc. Voilà, j'ai fait des avocates, j'ai été gâtée, on va pas se mentir, j'ai fait des rôles magnifiques. J'ai fait un petit bilan sur moi, hein, parce qu'à un moment donné, tu sais, t'as des blancs dans cette profession, et puis et tu te dis, bon, il y a l'IA qui arrive, qu'est-ce qu'on fait, quel est le bilan? Est-ce que ça va vraiment s'arrêter, cette affaire? Et oui, je me suis posé la question. Je me suis dit comment je le vivrais, parce qu'aujourd'hui, je m'éclate. J'ai un métier que j'adore. J'ai des partenaires que je trouve extraordinaires. Je kiffe ce métier. Et je le soutiendrai jusqu'à la fin. Mais si ça s'arrêtait, comment je le vivrais? Et en fait, je me suis dit, bon, il faut relativiser. T'as quand même eu une chance folle. T'as eu des rôles magnifiques. T'as donné la réplique à Tom Cruise, à Matt Damon, c'est fou, quoi, tu vois, des fois, voilà, je me suis consolée en me disant, écoute, si ça s'arrête, je serais vraiment très furieuse, mais je serais très heureuse quand même au bilan.
Bon, après, ça va pas s'arrêter.
Non.
Faut être positif, faut être optimiste.
Bien sûr que non.
Peut-être une dernière question, un peu moins rigolote, j'avoue, mais autour de peut-être la précarité aussi du métier. Parce que quand on commence dans le doublage, ou même en tant que comédien, même sans faire du doublage, quand on est acteur aussi, actrice, c'est quand même difficile
On ne va pas se mentir, il y a un engouement terrible actuellement pour le doublage, et les gens pensent que parce que c'est assez facile de lire une rythmo, quoique, tu vois, là je fais une démo en bas de doublage et c'est pas si facile que ça, mais ils pensent que c'est accessible et qu'on peut en faire un métier comme ça juste en disant j'arrête les études et je vais faire du doublage. Non, moi je m'inscris en faux. Il faut vraiment savoir que c'est long, c'est à la fois du talent, de la chance et des relations. Il faut être hyper complet. Et surtout, faut être capable d'assumer, d'avoir les épaules larges pour se dire que ça ne va peut-être pas marcher. Et pendant des années, moi aussi, j'ai bouffé de la vache enragée avant que ça fonctionne. On va pas se mentir, il y a des moments où il n'y a plus rien, et puis ça reprend, et ça, pour les nerfs, c'est compliqué. Et on a des copains qui bossent depuis des années et des années. Actuellement, le métier est un peu actuellement dans le pays, en crise. Donc il y a un petit peu moins de travail. Et on a des copains qui sont au désespoir, alors que ça fait 25-30 ans qu'ils sont dans le métier et qui sont talentueux. Si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que à côté de ça, il y a de plus en plus d'écoles de doublage. Et je trouve que c'est un petit peu le miroir aux alouettes. Donc c'est bien que tu me laisses la parole et que tu me permettes de dire ça, parce que moi, j'ai pas voulu donner de cours de doublage. On me l'a proposé parce que je trouve pas ça très honnête de dire oui, mais peut-être que ça va marcher pour toi. Oui, ça va peut-être marcher pour certaines personnes, mais combien de reçus
pour combien
de places, quoi. Voilà, donc c'est attention, voilà, à pas se fourvoyer. Si vraiment vous êtes très motivé, très talentueux, très vous avez les épaules solides, etc., ça peut prendre du temps, et il n'y a pas la sécurité de l'emploi. Voilà.
C'est surtout ça, ouais. Voilà. La sécurité de l'emploi, intermittent du spectacle, c'est ça?
Exactement. Et... voilà. Donc il y en a, tu vois, qui perdent leur statut alors que ça fait des années qu'ils bossent. C'est dur de voir ça, ouais. Donc évidemment, on essaie d'être solidaire, mais quand il n'y a pas de boulot, c'est compliqué.
Eh ben, écoute, merci Laetitia.
Merci
d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. C'était extrêmement intéressant.
Merci beaucoup.
I'm
Black Flag de Duchess 16, toujours sur Radio Campus Amiens 87.7. On écoute maintenant la chronique du jour réalisée par Léo. Je t'écoute, Léo.
Oui, merci Margot. Donc aujourd'hui, retour en Suède le 10 décembre 1901 pour la toute première remise du prix Nobel, devenu depuis l'une des distinctions les plus prestigieuses au monde. Mais avant de parler du prix, il faut parler de l'homme derrière le nom, Alfred Nobel. Il naît en 1833 à Stockholm dans une famille d'ingénieurs. Curieux, voyageur, passionné de littérature, il devient pourtant célèbre pour une invention explosive, la dynamite. Créée en 1866 après des années de recherche marquées par des accidents dont celui qui coûtera la vie à 5 personnes 2 ans plus tôt où son frère cadet Émile périt. La dynamite révolutionne l'industrie et Nobel en fait fortune. Mais son invention sert aussi des guerres et cela le hante. D'autant plus qu'en 1888, son frère Ludwig meurt et un journal français croit qu'il s'agit d'Alfred et publie une nécrologie titrée « Le marchand de mort est mort ». Le texte accuse Nobel d'avoir trouvé un moyen de tuer plus rapidement que jamais. Alfred Nobel dit ça, vivant, c'est un coup de choc. Il comprend l'image qu'il laissera, celle d'un homme ayant facilité la destruction. C'est cette prise de conscience qui le pousse à agir. Alors, en 1895, un an avant sa mort, il rédige un testament surprenant. Presque toute sa fortune servira à créer 5 prix, destinés à ceux qui auront apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Donc la physique, la chimie, la médecine, la littérature et la paix. Alfred Nobel meurt le 10 décembre 1896 à Sanremo, et 3 ans plus tard, la Fondation Nobel est créée. Et en 1901, les premiers prix sont remis. Depuis, ils sont toujours décernés le 10 décembre, donc date symbolique de sa mort, à Stockholm, sa ville natale. Comme toute institution internationale cependant, le prix Nobel n'échappe pas aux polémiques. Certaines nominations ou récompenses ont profondément divisé. On pense par exemple au prix Nobel de la paix 1973, attribué à Henry Kissinger, alors que la guerre du Vietnam était encore ravageuse, une récompense tellement contestée que 2 membres du comité démissionnèrent et que son co-lauréat, le diplomate vietnamien Le Duc Tho, refusa le prix. On peut citer également l'année 1994, où ont été récompensés Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Peres pour leur rôle dans les accords d'Oslo, censé amorcer une paix durable entre Israéliens et Palestiniens en mettant fin à la première intifada. Le membre du comité Nobel, Carl Christensen, a démissionné estimant que le prix était trop marqué par la violence, la terreur et la torture. À l'international, le prix a été qualifié de prématuré car la paix était encore fragile. Après la signature des accords et au moment de la remise du Nobel, on en voit donc les conséquences aujourd'hui encore. On peut aussi mentionner la nomination d'Adolf Hitler en 1939 au prix Nobel de la paix. Oui, elle a réellement lieu, mais rassurez-vous, ce n'était pas une reconnaissance, mais une provocation satirique d'un député suédois qui voulait dénoncer d'autres choix politiques de l'époque. Plus récemment, on peut voir que le prix est ainsi devenu un instrument géopolitique avec Barack Obama en 2009 ou le dissident chinois Liu Xiaobo en 2011. Antoine Jacob raconte dans son ouvrage Histoire du prix Nobel, que le prix Nobel fut pour les détracteurs du prix un choix politique destiné à soutenir, ou dans un second cas, à désapprouver publiquement la conduite de tel ou tel pays. Ces polémiques ne remettent pas en cause la valeur du prix, mais rappellent que le Nobel ne récompense pas des saints, il récompense des humains avec leur complexité et leurs contradictions. Le Nobel, c'est aussi des moments historiques. Le couple Pierre et Marie Curie, récompensé en 1903. Anecdote intéressante à ce sujet, Marie Curie n'était pas sur la liste des lauréats. Il a fallu que son mari Pierre insiste pour qu'elle partage la récompense, devenant ainsi la première femme à recevoir un prix Nobel. Elle remporte même un second prix en 1911, un exploit encore unique chez les femmes aujourd'hui. On pense également à Nelson Mandela et Frédéric de Klerk en 1993, distingués pour leur rôle dans la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Plus d'un siècle après sa création, le prix Nobel reste un symbole puissant, celui d'une récompense tournée vers la recherche, le progrès, la paix et la connaissance. mais il est aussi le reflet d'un autre monde, imparfait, politique et parfois contesté, exactement comme l'humanité qu'il cherche à encourager. Alfred Nobel pensait que l'espoir d'un prix éteindrait plus de guerres que tous les traités. Mais il est important de le rappeler, un prix, même prestigieux, ne suffit pas. Il ne remplace ni les combats quotidiens, ni l'engagement durable, ni la responsabilité collective. Le Nobel met en lumière, mais c'est ensuite au monde d'agir.
Merci Léo, c'est la fin de cet épisode d'InfoClub Sandwich. Alors pour rappel, ce soir de 18h à 23h, Radio Campus Amiens propose une émission spéciale en collaboration avec la MAM, la Maison des Associations d'Amiens, et le Mouvement Associatif. Les animateuristes bénévoles de la radio animeront des plateaux associatifs, des échanges et des interviews afin de parler de la situation des associations et des radios associatives. Vous pouvez toujours participer en laissant un message vocal au 03 22 72 03 69 ou sur l'Instagram de Radio Campus Amiens. Dites-nous simplement pourquoi votre radio locale et vos associations comptent pour vous. Au programme, beaucoup d'invités. On comptera parmi nous Evelyne Journeau de la MAM, Claire Bizet, directrice Hauts-de-France du mouvement associatif, Florent Bertrand, président de la FEP, mais encore bien d'autres. Seront également présents des représentants et représentantes de la CNRA, Confédération nationale des radios associatives, mais aussi de Radio Campus France, du SNRL, Syndicat national des radios libres, et plus. Tout sera marqué par des temps musicaux, par nos artistes locaux et des interviews comme celle de Gabriel Zuckmann, économiste. On finira sur une émission collaborative par les bénévoles de MUF et de podcast jusqu'à 23h. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur le site de radiocampusamiens.fr. En tout cas, nous, c'est terminé pour Info Club Sandwich aujourd'hui. On écoute donc pour se quitter All at Once du groupe Trust et à demain sur Radio Campus.
You're about the voice. You name all the words. The tragedy. Change your demons.